Commentaire sur la Bible, introduction, document numéro F000. Les Saintes Écritures, également connues et appelées la Sainte Bible, sont sacrées pour trois grandes religions de la planète, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam, comme le montre le Coran. Introduction. Les Saintes Écritures, également connues et appelées la Sainte Bible, sont sacrées pour trois grandes religions de la planète, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam, comme le montre le Coran. De nombreuses sectes du judaïsme, du christianisme et de l'islam ont tenté de corrompre et de déformer les Saintes Écritures, y compris le Coran. Entre parenthèses, voir le commentaire sur le Coran sur le site de l'Église chrétienne de Dieu, ccg.org. L'enseignement standard est que la Bible est la parole soufflée par Dieu et inspirée de Dieu. Le Coran enseigne également cet aspect et du fait que chacun est dépendant du calendrier de Dieu. Voir le document numéro 156. Cette compréhension a été corrompue par chacune des religions pour dissimuler les différents aspects des fêtes religieuses et leur signification. Pour comprendre la Bible, nous devons avant tout comprendre la création et le but pour lequel l'homme a été créé. La Bible suit un plan clair et logique. Elle nécessite cependant l'Esprit Saint comme élément de l'appel de Dieu pour qu'elle soit clairement comprise et suivie correctement selon les lois ainsi que le calendrier de Dieu. Entre parenthèses, comparez aussi le document d'étude La loi de Dieu L1. Voyons le plan de salut. La création avait un but précis, celui de perfectionner les fils de Dieu dans l'armée des Elohim, ainsi que d'élever l'humanité à la position d'Elohim en tant que fils de Dieu, comme l'indique la prophétie biblique. Cela a été expliqué dans le texte « Les élus en tant qu'Elohim » numéro 001. Comparez l'annexe 1. Ce plan est maintenant exposé dans le texte « Le plan de salut » numéro 001A. Voir ci-après dans ce document. Le plan est centré sur l'alliance de Dieu numéro 152 et autour de la loi de Dieu numéro L1. La création dépend et repose sur la loi qui découle de la nature de Dieu. C'est pourquoi la loi est immuable, puisque Dieu est immuable. La structure du plan est centrée sur la loi dans l'appel de l'humanité et la séquence du gouvernement de la création, ainsi que les places des résurrections dans ce processus. Nous abordons également les tentatives et manœuvres de Satan pour perturber l'appel et limiter ceux de la première résurrection. Le plan traite également de la place du christianisme et de l'islam dans l'alliance de Dieu, voir le document numéro 096C. L'islam et le Coran sont également traités sur le site web à l'URL http://ccg.org/islam/quran.html dans l'original anglais et à sa traduction en français à l'URL http://french.ccg.org/quran.html. Voyons maintenant le déroulement de la création. Les grandes lignes du déroulement de la création sont exposées dans les documents Les grandes lignes de la chronologie de l'âge, numéro 272, La chronologie des guerres mondiales et les rois de l'Est, numéro 272b, et dans la série sur le règne des rois, le règne des rois partie 1 Saül, numéro 282a, le règne des rois partie 2 David, numéro 282b, le règne des rois partie 3 Salomon et la clé de David, numéro 282c, le règne des rois partie 3b, l'homme en tant que le temple de Dieu, numéro 282D. Ainsi que la chute de l'Égypte, la prophétie des bras cassés de Pharaon, numéro 036, et la chute de l'Égypte, partie 2, les guerres de la faim, numéro 036B. Les résurrections, la résurrection des morts, numéro 143, le ciel, l'enfer ou la première résurrection des morts, 143A, la deuxième résurrection et le jugement du grand trône blanc, numéro 143B, le jugement des démons, numéro 080. La cité de Dieu, voir la cité de Dieu numéro 180, il est important que toute personne qui professe le christianisme et l'islam étudie ces documents et cet ouvrage. Le plan de salut implique également les documents suivants. Israël comme plan de Dieu numéro 001b. Israël en tant que la vigne de Dieu numéro 001c. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême numéro 001d. Conversion numéro 001e. Création et guérison numéro 001f. Conversion et vérité numéro 072, prier à Christ ou à d'autres êtres autres que le Père numéro 111b. Voyons maintenant la publication du canon de la Bible. Le canon a été publié par Dieu progressivement, par instruction, à travers une séquence choisie de patriarches et de prophètes, jusqu'à ce qu'il soit temps d'envoyer le Messie en tant qu'humain, afin de procéder à la sélection des élus appelés par Dieu et donnés à Christ. Comparez les documents à la Bible, numéro 164. Les humains, dans les derniers jours, résistent aux doctrines de la création et utilisent incorrectement et traduisent mal la Bible. Le plan de salut. Avant le commencement de la création, il n'y avait qu'Eloah, entre parenthèses en chaldéen, Elah ou en arabe, Allah, l'unique véritable Dieu. Ce nom n'admet aucune pluralité. Il était seul. Il a décidé de créer et de se reproduire lui-même en multiplicité. Le commencement de la création de Dieu fut l'extension de lui-même pour incorporer l'armée céleste en tant qu'Élohim. Ceux-ci étaient tous les fils de Dieu. La création des Élohim incluait Christ en tant que le commencement de la création de Dieu. Voir Apocalypse 3, verset 14. L'affirmation selon laquelle Christ était un être coéternel est une fiction idolâtre polythéiste qui n'est entrée dans les églises de Dieu que sous l'armstrongisme dans l'église de Sardes du XXe siècle, alors que le trinitarisme est arrivé par le biais des jésuites et E.G. White dans le système laodicéen. Comparez le document La fausse prophétie, numéro 269. La création des Elohim est expliquée dans l'ouvrage Comment Dieu devint une famille, numéro 187. Après la création spirituelle des Elohim, qui était interconnectée avec et par l'Esprit Saint, voir le document numéro 117, l'unique véritable Dieu a commencé la création physique. L'unique véritable Dieu a créé la terre comme faisant partie de l'univers physique et il a convoqué tous les fils de Dieu sous la direction de leurs étoiles du matin pour qu'ils soient tous présents. Voir Job 38, versets 4 à 7. En ce temps-là, tous les fils de Dieu avaient accès au trône et Satan était parmi eux. Voir Job 1, verset 6, Job 2, verset 1. La création est régie au moyen de la loi de Dieu, voir le document L1, qui découle de sa nature même. C'est pour cette raison précise que la loi de Dieu ne peut être supprimée, abolie, et qu'elle durera jusqu'à ce que le ciel et la terre disparaissent, comme Christ l'a déclaré. Voir Matthieu 5, verset 18. La question de la création et la nécessité logique de la causalité singulariste sont traitées dans le texte Création, etc., numéro B5. La création adamique a été faite par Dieu conformément à son plan de salut. La création intelligente est reconnue par la plupart des scientifiques comme n'étant possible que dans un laps de temps de quelques millions d'années pour les principaux systèmes stellaires. La création adamique avait deux buts. L'un des buts était de fournir aux Elohim une obligation de veiller et de prendre soin de la création physique et de les mettre en situation de test. L'autre but était de permettre un système progressif de remplacement de l'armée rebelle ou déchue par le biais de l'ex-anastasine ou résurrection extérieure, voir Philippiens 3, verset 11 de la première résurrection, voir le document numéro 143a. Et par la suite, une résurrection générale lors de la deuxième résurrection, voir le document numéro 143b. Les découvertes archéologiques montrent que l'étoile du matin en charge et placée à la tête de cette planète a passé beaucoup de temps à faire des expérimentations avec des humanoïdes et d'autres structures de vie, et ce pour deux objectifs. Le premier était de créer des humanoïdes qui interromperaient et corromperaient la création adamique planifiée, et qu'Azazel ou Satan utilisait ensuite pour semer la confusion dans l'esprit de l'armée humaine avec des mensonges au sujet de ces découvertes archéologiques. Entre parenthèses, comparer le document Création versus Évolution B9. Pour une raison quelconque, la terre est devenue tohu et bohu, ou dévastée et chaotique. Et Dieu a envoyé les Elohim pour restaurer la planète et pour mettre en œuvre le système adamique, comme nous le voyons dans le chapitre 1 de Genèse. Le but de la création était de créer des humains afin qu'ils apprennent, et qu'au fil de la séquence, ils deviennent des Elohim ou fils de Dieu, comme l'étaient les autres Elohim de l'armée. Comparez Jean 10, versets 34 à 36. De cette manière, nous deviendrions cohéritier avec Christ, voir Romains 8, verset 17. Le processus est expliqué dans les élus en tant qu'Élohim, numéro 001. Par le moyen de son omniscience, Dieu a compris qu'un tiers de l'armée se rebellerait et qu'il serait nécessaire que l'un d'entre eux abandonne son existence et suive dans l'obéissance et devienne le chef de la création. Cet être était l'un des Elohim que nous connaissons maintenant sous le nom de Jésus-Christ. Il a été déterminé dès avant la fondation du monde. De même, les Elohim de remplacement, que sont les saints élus, en remplacement des démons dans le gouvernement millénaire, ont également été choisis et déterminés dans le livre de vie dès avant la fondation du monde. Comparez aussi Jérémie 1, verset 5. Chaque être humain est sélectionné et placé dans la séquence de la création telle que c'est déterminé par l'omniscience et l'omnipotence de Dieu, et est appelé selon son dessein, voir Romains 8, verset 28 à 30, et sa prédestination, voir le document numéro 296. Le mal a été autorisé afin de tester à la fois l'humanité et l'armée. Comparez le document Le problème du mal, numéro 118. Dieu a accordé 7000 ans pour ce processus. 6000 ans ont été accordés pour la phase de travail sous le Dieu de ce monde, qui est l'étoile du matin, Azazel ou Satan. Entre parenthèses, 2 Corinthiens 4, verset 4. Comparez aussi le document Lucifer, porteur de lumière, étoile du matin, numéro 223. La limitation était que les lois de Dieu devaient être confiées aux patriarches élus et aux prophètes élus et que les élus observeraient les lois de Dieu. C'était leur test et leur signe. Ils seraient alors appelés et se verraient accorder l'esprit et seraient affectés à la première résurrection, voir le document 143a, en remplacement des démons. Ceux qui enseignaient contre la loi et qui n'observaient pas la loi et le témoignage étaient rejetés, comme n'étant pas appelés et choisis, voir Ésaïe 8, verset 20. Ils seront rééduqués plus tard, lors de la deuxième résurrection. Voir le document numéro 143b, cité ci-après dans ce document. Les élus de la première résurrection devaient alors devenir des Elohim en tant que fils de Dieu et rejoindre Christ en tant qu'armée de remplacement, et ce pour le règne millénaire de Jésus-Christ lorsqu'il reviendra pour prendre le contrôle de la planète en tant qu'étoile du matin de remplacement. Voir Apocalypse chapitre 20. Le millénaire devait durer 1000 ans, au cours duquel Satan et l'armée déchue seraient enfermés dans la fosse de Tartaros. À la fin du millénaire, ils devaient alors être libérés et l'humanité devait être à nouveau testée sous la direction des démons. L'humanité sous la direction des démons se rebellerait à nouveau, comme l'indique la prophétie, et les gens marcheraient alors contre Christ et les élus à Jérusalem. Après ce dernier conflit, ils seront tous tués puis ressuscités à la deuxième résurrection et au jugement du grand trône blanc, voir le document 1143b, et au jugement des démons, numéro 080. Les humains qui ne se rebelleront pas ne passeront pas par la mort, mais seront transformés en des êtres spirituels et intégrés à l'armée des Elohim sans formation supplémentaire. Les gens qui sont placés sous le jugement du grand trône blanc pour se recycler, rééduquer, sont tous ceux qui ont vécu de la création adamique. Tous ceux qui n'ont pas observé les commandements de Dieu, la foi et le témoignage de Christ, voir Apocalypse 12, verset 17, 14, verset 12, ne feront pas partie des élus. Cela inclut pratiquement deux ères complètes des églises de Dieu, qui n'ont pas observé le calendrier du Temple, voir le document numéro 156, mais qui observaient soit Hillel, soit une autre abomination. Le judaïsme moderne, ainsi que ceux qui observent Hillel et les intercalations babyloniennes, n'ont jamais obéi à Dieu, et n'ont pratiquement jamais observé un jour saint au jour correct, et une grande partie du temps, pas même dans le bon mois. Comparez Hillel, les intercalations babyloniennes et le calendrier du Temple, numéro 195c. Les Juifs ne détiennent pas les oracles de Dieu. L'Église de Dieu les détient. Comparez le document Les oracles de Dieu, numéro 184. Dieu ne se préoccupe pas de savoir pourquoi vous faites les choses. Dieu vous donne simplement le choix entre l'obéissance et l'observation de la loi ou être relégué à la deuxième résurrection, où tous les autres seront recyclés et rééduqués. Si vous n'observez pas les sabbats et les nouvelles lunes, vous êtes exclus. Et au retour du Messie, tous ceux qui ne le font pas seront tués. Voir Ésaïe 66, verset 23 à 24. Ils seront ensuite envoyés à la deuxième résurrection pour être recyclés, rééduqués. De même, tous les habitants de la planète au cours du millénaire devront observer les fêtes, sinon ils ne recevront pas de pluie en sa saison et subiront les fléaux de l'Égypte. Voir Zacharie 14, verset 16 à 19. Il n'y a pas de négociation. Le choix nous appartient. Personne d'autre ne peut nous sauver. Obéissez ou faites face à la deuxième résurrection pour être recyclés, rééduqués. Ceux qui n'obéiront pas seront alors, en vertu du jugement, autorisés à mourir et incinérés dans les temps de feu, qui est la seconde mort. Ils cesseront d'exister et on ne se souviendra plus d'eux. Voyons maintenant les méthodes de mise en œuvre du plan. Les méthodes de mise en œuvre du plan de la création sont un processus brillant et simple. Chaque individu a reçu un esprit qui est le nefesh de la structure de la Bible. Cette chose n'est pas immortelle. Lorsque la personne meurt, cet esprit retourne à Dieu qu'il a donné jusqu'à ce que nous soyons ressuscités au temps approprié selon l'omniscience de Dieu. Cela est expliqué plus en détail dans le texte L'âme, numéro 092. C'est le plan de Dieu que l'esprit du Nefesh soit superposé avec l'Esprit Saint, voilà le document numéro 117, lors de la phase finale, afin que l'individu devienne un avec Dieu et l'armée à travers l'Esprit. Sans l'Esprit Saint, le Nefesh ou Esprit de l'homme n'est qu'une simple empreinte mortelle qui absorbe l'Esprit Saint, qui l'active. Le Nefesh est capable de devenir un nouvel être dans la prochaine phase de l'existence spirituelle dans une nouvelle dimension. Dans cette phase, nous deviendrons tous des Elohim, ou Théoi, c'est-à-dire des fils de Dieu, comme Christ l'a déclaré dans Jean 10, versets 34 à 36. C'est dans ce processus que nous devenons consubstantiels au Père, voir le document numéro 081. Ce processus se produit par la grâce de Dieu, mais cela ne dispense pas de la nécessité de se conformer à la loi de Dieu, L1, qui procède de sa nature, comme l'explique le texte La relation entre le salut par la grâce et la loi, numéro 082. De cette façon, nous ne faisons qu'un avec l'armée, en tant que des fils de Dieu spirituels, et nous gouvernons l'univers avec Dieu, à partir de la terre sainte, en tant que la cité de Dieu. Voir le document numéro 180. Voyons la séquence du plan. La création a été planifiée et exécutée sur une longue période de temps, et avait pour but de permettre au futur Elohim d'être créé, et alors de devenir ensuite des êtres responsables, apprenant à devenir Elohim, et à s'occuper ainsi qu'à prendre soin de la création, et à l'étendre en tant que membre de la famille divine. La création humaine a été insérée dans cette création au moment voulu. Il était connu que l'homme pécherait, et qu'un plan de salut de la création était nécessaire pour mettre en œuvre le plan. Le plan de salut était divisé en 7 sections de 1000 ans, sur 3 phases de période de 2000 ans. Il s'agissait d'un exemple de travail sous l'étoile du matin Azazel, qui devint Satan en tant qu'accusateur, et sa section de l'armée. Les phases de travail, entre guillemets, seraient ensuite suivies par les saints élus des patriarches et des prophètes, et par l'Église qui a été établie par le Messie pour la troisième phase, et qui a observé les commandements de Dieu et la foi et le témoignage de Jésus-Christ, voir Apocalypse 12, verset 17, 14, verset 12. Il s'agirait de la première résurrection des morts, voir le document numéro 143A, cité ci-dessus dans ce document. Le plan était représenté par la semaine dans la division du temps avec les 6 jours ouvrables et le sabbat du 7e jour de Dieu. Les nouvelles lunes, les jours saints et les fêtes représentaient en eux-mêmes les activités du plan de Dieu. Le calendrier a été observé depuis Adam et les patriarches pour toute la création. Une explication plus approfondie des 3 phases est donnée dans les textes Le règne des rois partie 1 Saül, numéro 282A, Le règne des rois partie 2 David, numéro 282B, Le règne des rois partie 3 Salomon et la clé de David, numéro 282C. Ce plan a également été symbolisé dans la construction du temple de Dieu à Jérusalem, ce qui est expliqué dans le document d'étude Le règne des rois, partie 3B, l'homme en tant que temple de Dieu, numéro 282D. À la fin des 6000 ans, le monde est dans un tel état de péché et de trouble, à cause des fausses religions et des violations de la loi de Dieu, que les guerres de la faim s'enclenchent. Ceci est expliqué dans la séquence à partir des avertissements faits par le dernier système de l'Église et par le prophète annoncé par Dieu dans Jérémie 4, verset 15, verset 16 à 27. La force de Gédéon et les derniers jours, numéro 022, les avertissements des derniers jours, numéro 044. Satan avait passé toute la période à corrompre l'humanité dans le but de la détruire, comme nous le voyons ci-après dans ce document. Le monde éclate dans les guerres des 5e et 6e trompettes, voir le document d'étude Les guerres de la fin, partie 1, Les guerres d'Amalek, numéro 141C, Alors les témoins, Enoch et Élie, sont envoyés, comme promis par Dieu, voir aussi Malachie 4, verset 5, et le document Les guerres de la fin, partie 2, les 1260 jours des témoins, numéro 141D. Dieu envoie alors le Messie comme cela a été prédit et est attendu depuis 2000 ans par les églises de Dieu. Voir le document Les guerres de la fin, partie 3, Armageddon et les coupes de la colère de Dieu, numéro 141E. Le monde est tellement corrompu et dans un tel état de péché que les gens n'accepteront pas la correction. Ils tuent les témoins, Enoch et Élie, et ensuite ils marchent contre Christ. Voir les guerres de la fin, partie 3B, la guerre contre Christ, numéro 141E-2. Christ procède alors à la subjugation de toutes les nations, ainsi qu'à l'éradication de toute la fausse religion sur la planète, ainsi que des systèmes de faux gouvernements et des péchés qui en découlent. Voir le document Les guerres de la fin, partie 4, la fin de la fausse religion, numéro 141F. Après le retour du Messie et la première résurrection, les démons sont placés dans la fosse du Tartaros pour 1000 ans, au cours de ce qui est alors une phase finale, qui inclut la période du 7e millénaire du sabbat messianique. Les saints élus en tant qu'êtres spirituels gouvernent alors le monde avec Christ au cours de ces 1000 ans. Et les démons sont par la suite jugés sur leur conduite en fonction de celle de Christ et des élus. Les démons sont réduits à l'état d'humain, puis placés avec l'armée humaine qu'ils ont corrompue afin d'être rééduqués au cours de la période de la formation finale de la deuxième résurrection et du jugement du grand trône blanc, voir le document numéro 143B. Tous les faux ministres et les prêtres corrompus, imams et chefs religieux qui suivent les systèmes et la corruption de Satan, comme le voyons ci-après dans ce document dans la section sur la fausse religion, seront placés dans ce système et recyclés et rééduqués. Beaucoup d'entre eux devront bénéficier d'une protection à court terme pour leur propre sécurité. Néanmoins, le monde sera en mesure de voir ces personnes après la période de protection nécessaire, comme on le constate dans Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28. Comparez le document « Le jugement des démons » numéro 080. Dès le début du système millénaire, pour les 1000 ans, nous commençons la restauration de la planète. Voir les guerres de la fin, partie 5, la restauration pour le millénaire. Ensuite, le système millénaire commence et nous amorçons la formation de la planète pour la mise en œuvre du plan de Dieu, qui est de permettre à l'humanité d'atteindre sa vraie finalité dans le plan de Dieu. Cette finalité est de devenir Elohim, comme Dieu au pluriel, en tant que cohéritier avec Christ. Voir le document Les guerres de la fin, partie 5b, la préparation des Elohim, numéro 141H. Nous allons maintenant nous pencher sur la façon dont Satan a fait du mieux, entre parenthèses, ou plutôt le pire, qu'il pouvait pour détruire le plan de Dieu et de prouver que l'humanité n'était pas un sujet apte et convenable pour devenir Elohim. L'attaque de Satan contre la création de l'humanité. Satan a essayé de détruire l'humanité de plusieurs façons. Il a premièrement interféré en faisant pécher Adam et Ève, ce qui a modifié leur statut, et par ce péché, la mort est entrée dans le monde. Voir le document La doctrine du péché originel, partie 1, le Jardin d'Éden, numéro 246. Il a alors attaqué les patriarches et la structure génétique de l'humanité. Ces attaques ont été si étendues et si réussies que Dieu a éliminé la création corrompue lors du déluge. Seuls ceux dont la structure n'a pas été corrompue seront ressuscités et traités dans l'une ou l'autre des résurrections. Voir le document d'étude La doctrine du péché originel, partie 2, les générations d'Adam, numéro 248. La loi de Dieu, L1, et l'alliance de Dieu, numéro 152, ont été donnés au monde par l'intermédiaire des patriarches d'Adam à Noé, puis renforcés à travers la lignée d'Abraham, Lot, Ismaël, Isaac et Jacob, et par Moïse et Aaron au Sinaï, puis par les prophètes. Le Messie devait être tiré de cette lignée en tant que la nouvelle étoile du matin, selon Nombre 24, verset 17. Le raisonnement de Satan était simple. Si l'alliance reposait sur le fait que les élus observaient la loi de Dieu et la foi, et le témoignage du Messie au fur et à mesure de son déroulement. Alors, tout ce qu'il avait à faire était d'attirer la création humaine dans le péché et de la séparer de la loi de Dieu. Cela était basé sur le grand mensonge donné à Adam et Ève, lequel a causé leur péché en premier lieu. Ce mensonge était le suivant. Vous ne mourrez sûrement pas. Comparez aussi le document La doctrine de Balaam et la prophétie de Balaam, numéro 204. Satan a développé ce mensonge et a établi la doctrine de l'âme immortelle. Cette doctrine cherchait à séparer les humains de l'idée et du fait qu'ils dépendaient totalement de Dieu pour leur résurrection et leur vie éternelle. Voyons maintenant Satan et la fausse religion. Satan a ensuite développé l'idée parmi les humains que lorsqu'ils mouraient, ils allaient au ciel. Cette idée a été développée parmi les païens et les gnostiques à travers les cultes du soleil et des mystères, qui ont établi un système en opposition directe aux lois de Dieu et au calendrier de Dieu, voir le document numéro 156, et au plan de salut que Dieu a mis en place sous ce système. À mesure que Dieu révélait son système par l'intermédiaire des patriarches et des prophètes, Satan a mis en place un contre-système et une fausse doctrine pour tromper l'humanité et empêcher leur salut. Les deux principaux systèmes étaient à Babylone et en Égypte en utilisant les cultes du soleil et des mystères. Comparez les documents au mysticisme B7-A. Ces aspects sont également examinés dans Moïse et les dieux de l'Égypte, numéro 105, ainsi que le veau d'or, numéro 222. Le faux système de Babylone a vu l'intervention directe de Dieu par la destruction de Babel et l'altération du système humain par un processus qui a confondu leur langage et a vu leur dispersion dans des terres lointaines. Ce processus a alors permis d'utiliser l'arme suivante de l'arsenal de Satan, à savoir le sceau qui suivait la fausse religion, qui était la guerre. Et de ce conflit est née la conquête, suivie de la peste et de la mort. Cet aspect est traité dans le texte des sept sceaux, numéro 140, qui englobe également la persécution qui accompagne la fausse religion. La fausse doctrine de l'âme immortelle est venue des Grecs en tant que processus philosophique. Cette doctrine est traitée dans le texte « La doctrine socratique de l'âme » numéro B6. La doctrine a alors été modifiée à partir de la philosophie grecque pour infecter le christianisme primitif, comme l'explique le texte « Le développement du modèle néoplatonicien » numéro 017. L'idolâtrie a été établie dans le christianisme par le biais des cultes du soleil et des mystères, dans l'adoration de Mithra et d'Attis à l'ouest, d'Adonis à l'est, et d'Osiris à Alexandrie. Leurs doctrines ont été insérées par la déformation des binitaires et des trinitaires de la théologie de la divinité des premiers temps, voir le document numéro 127b. Il en est de même pour les doctrines qui sont expliquées dans les origines de Noël et de Easter, la Pâque païenne, numéro 235. Satan a établi l'hérésie gnostique très tôt dans l'Église, comme nous le voyons dans le texte Les hérésies dans l'Église apostolique, numéro 089. Les hérésies se succédèrent dans les églises jusqu'à ce qu'elles soient totalement corrompues. Les doctrines gnostiques ont été établies comme une forme parasite dans les trois systèmes distincts du judaïsme, du paganisme et du christianisme et à travers le culte de Baal, les cultes du soleil. Le système de la déesse mère est devenu une corruption mondiale de toutes les croyances et en particulier celle du christianisme. Il était presque toujours suivi par l'antinomisme. Même dans le judaïsme, il était suivi de traditions qui ont rendu la loi et le calendrier invalides et corrompus jusqu'à ce jour. La corruption antinomienne est abordée dans les textes des présumées contradictions de la Bible, numéro 164b, la destruction antinomienne du christianisme par une mauvaise utilisation de l'écriture, numéro 164c, les attaques antinomiennes contre la loi de Dieu, numéro 164d, le déni du baptême par les antinomiens, numéro 164e. La loi et l'alliance étaient liées ensemble et donc l'antinomisme a été utilisé pour les détruire. Voir le document des attaques antinomiennes dirigées contre l'alliance de Dieu, numéro 096d. La loi a été donnée de manière distincte pour préparer le Messie. Comparez le document à la distinction dans la loi, numéro 096. Le Messie a donné la loi aux patriarches, d'Adam à Abraham, Isaac et Jacob, puis à Moïse et à Aaron au Sinaï. Comparez la série Les descendants d'Abraham au numéro 212A, 212B, 212C, 212D, 212E, 212F, 212G, 212H et 212I. Les documents d'études sur la loi et l'alliance, particulièrement ici, montrent les famines pour la rébellion, voir le document numéro 212H, et la dernière grande famine, numéro 212I, qui est devant nous. La loi et le témoignage ont été transmis à travers les prophètes jusqu'à Christ dans l'incarnation. C'était la deuxième déclaration de l'alliance à Israël. Comparez le document Les premières et deuxièmes dépositions de l'alliance de Dieu, numéro 096b, et le christianisme et l'islam dans l'Alliance de Dieu numéro 096C. Satan s'est servi de cette distinction pour mentir aux gens et leur imposer l'idée que Christ a promulgué une nouvelle loi différente de l'ancienne loi qui a été éliminée ou abolie. Ce mensonge et les attaques contre le baptême, la loi et le témoignage ont privé et coupé un grand nombre de personnes de la première résurrection et les ont placées dans la deuxième résurrection. Satan s'est servi du penchant naturel de l'homme à la désobéissance, à la rébellion et à l'indolence entêtée, de sorte que les gens sont prêts à croire à tout ce qu'on lui dit et qui lui permet d'éviter des inconvénients et de l'inconfort. Et leur capacité à s'entretuer n'a fait qu'ajouter à l'impulsion. Satan a attaqué l'Église partout où elle était établie. La façon dont elle s'est répandue est indiquée dans les textes numéros 122, 122A, 122B, 122C et 122D. La persécution et les signes des Églises de Dieu sont exposés dans le texte Le rôle du quatrième commandement dans les Églises de Dieu observant le sabbat, numéro 170. Cette persécution a eu beaucoup de succès et atteint maintenant sa phase finale. Comme cela est expliqué dans les documents sur la Troisième Guerre mondiale, l'Empire de la Bête, numéro 299A, la Troisième Guerre mondiale, partie 2, la prostituée et la bête, numéro 299B, et le dernier pape, examen de Nostradamus et Malachie, numéro 288. L'établissement de l'Église en Arabie et son effondrement dans l'islam hadithique et l'islam chiite, etc., sont examinés dans le commentaire sur le Coran, à Q001, Q001A, Q001B, Q001C, Q001D et QS, ainsi que les shurats et les annexes telles que listées à l'URL http://ccg.org/islam/quran.html en français http://french.ccg.org/quran.html. Le fait que Satan ait eu autant de succès témoigne de la stupidité et de la crédulité monumentale de l'humanité. Dans le cadre du grand mensonge, tu ne mourras sûrement pas. Les filles de la prostituée ont inventé le mensonge de l'enlèvement, ravissement, dans le protestantisme. Les attaques contre la structure du système de l'avènement et du millénaire sont traitées dans le texte Le Millénium et le ravissement, enlèvement, numéro 095. Les falsifications des trinitaires dans le Receptus et la version King James de la Bible sont tout simplement à couper le souffle. Comparer la série 164 citée ci-dessus dans ce document. De même, Satan a pénétré les églises de Dieu dans les systèmes de Sardes et de Laodicée avec les doctrines de l'enlèvement, ravissement, et les doctrines d'ithéistes binitaires et trinitaires, et aussi d'autres fausses doctrines telles que le lieu de sécurité. Voir le document numéro 194. Armstrong a inventé, afin de garder les moutons dans leur rang, la doctrine totalement fausse de la troisième résurrection, comme expliqué dans le texte L'erreur de la troisième résurrection, numéro 166. Cependant, beaucoup de personnes plus intelligentes comprennent la doctrine pour ce qu'elle est. Bientôt, les témoins seront là, et ensuite le Messie et le faux ministère qui déchire les brebis sera détruit. Voyons maintenant au sujet de la création, comparé le document numéro 160. La signification du sacrifice de Jésus-Christ est au cœur de la foi. C'est la question centrale du Nouveau Testament. Et est l'aboutissement du système sacrificiel et de tout ce qu'il représentait. Un mythe extraordinaire qui s'est développé à partir des problèmes doctrinaux entourant la divinité et la place de Christ dans cette structure est que si Christ n'était pas Dieu et un être éternellement existant et incréé, alors son sacrifice serait inadéquat pour réconcilier l'humanité avec Dieu. On est alors amené à se poser la question suivante, par quelle autorité scripturaire une telle affirmation est-elle faite ? Aucune écriture ne soutient cette affirmation. Et en effet, il sera même démontré que le contraire est vrai. Comment alors une telle affirmation peut-elle être faite ou avancée? La réponse se trouve dans l'inadéquation, la suffisance, de la philosophie grecque et la mauvaise compréhension de la nature du système biblique et du but de la création. Il faut donc répondre à cette question en deux parties. L'une concerne le but de la création, l'autre le système biblique. Dans ce sujet, les insuffisances de la philosophie grecque doivent être exposées par comparaison avec les textes bibliques. Voyons la création. La création est premièrement expliquée dans le chapitre 1 de la Genèse. La plupart des gens supposent à partir de ce texte qu'il s'agit de l'explication du commencement de la création. Cette hypothèse est très large. Elle témoigne d'un échec à comprendre le message des générations des cieux et de la terre mentionné dans Genèse 2, verset 4. Le livre de la Genèse montre les divisions de la structure. La création s'est donc faite par plusieurs générations. Il y avait des séquences de la création, et les versets 1 à 3 du chapitre 2 de la Genèse traitent des générations des cieux et de la terre. Génération 1. La première génération est divisée en deux structures, le commencement et le pré-commencement. Le pré-commencement est la période qui se situe avant que Dieu ne commence à créer. Lors de cette période-là, il n'y avait qu'un unique véritable Dieu, entre parenthèses Jean 17, verset 3, 1 Jean 5, verset 20, qui est le seul immortel, voire 1 Timothée 6, verset 16. Rien d'autre n'existait. Il était seul et éternel. Il était omniscient en ce qu'il connaissait toute vraie proposition, et il était omnipotent en ce qu'il était capable de faire tout ce qui est logiquement possible de faire. Son immortalité intrinsèque signifiait qu'il ne pouvait pas mourir. Il était parfaitement bon, Marc 10, verset 18. Il était l'alpha et il est l'oméga. Voir Apocalypse 1, verset 8. Nous lisons dans Apocalypse 1, verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Version RSV. La version King James de la Bible rend le texte « Je suis alpha et oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est et qui était et qui est à venir, le Tout-Puissant. » Version King James. Les mots « Hotheos » ou « le Dieu » sont délibérément omis du texte anglais. Voir Marshall's Greek English Interlinear. Ceci afin d'essayer de confondre Dieu avec Christ ou de donner l'impression que c'est Christ qui parle, ce qui n'est manifestement pas le cas d'après le texte de l'Apocalypse 1, verset 1. Ce texte dit clairement que l'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Seul Dieu est l'alpha et l'oméga. Ce sens est que lui seul était le premier en tant qu'être immortel, donc il est alpha. Il est en activité continue, donc il est, et il doit devenir, et il est le Tout-Puissant. Ainsi l'oméga, ou le résultat final lui-même, est cet être. La création est donc centrée sur cet être, et est en elle-même l'objet final de son activité. Ainsi Dieu se crée lui-même dans un sens étendu. Nous voyons cela dans Exode 3, verset 14, où nous lisons. Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il dit, « Tu diras ainsi aux enfants d'Israël, « Je suis m'a envoyé vers vous. » Version King James. Le texte ici est « Ayez à chair, ayez ». Le sens, selon la Bible, « The Companion Bible », est « Je serai ce que je serai », entre parenthèses, « ou deviendrai ». Dieu a ainsi déclaré son activité et son intention. Il y a deux actions ici. Exode 3, verset 12 montre que l'être qui parle à Moïse fait état de l'adoration prévue pour le Dieu lui-même. Entre parenthèses, Et Ha Elohim, sur la montagne. Cet être faisait partie de l'activité de Dieu sous direction. Le Dieu était Eloah, qui est au singulier et n'admet aucune pluralité. Et en tant que tel, est l'objet de l'adoration de toute activité postérieure. Voir Deutéronome 5, verset 6 à 7, chapitre 6, verset 4, entre parenthèses, le mot Elohenu. Esdras 4, verset 24 à chapitre 7, verset 28. La première activité d'Eloah a été de générer les Elohim. Genèse 1, verset 1. Ceux-ci sont les fils de Dieu, le Dieu très haut. Voir Deutéronome 32, verset 8 dans la version RSV ou la Bible de Jérusalem en français. Job 1, verset 6, Job 2, verset 1, Job 38, verset 4 à 7. Les Elohim étaient le commencement des activités de la volonté du Dieu très haut, Eloah, ou Elah, en chaldéen. Voir Daniel 4, verset 2. Nous lisons dans Apocalypse, chapitre 4, verset 9 à 11. Et chaque fois que les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et qui vit pour toujours et à jamais, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et adorent celui qui vit pour toujours et à jamais. Ils jettent leur couronne devant le trône en chantant « Tu es digne, notre Seigneur et Dieu, de recevoir gloire, honneur et puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Version RSV. Les Elohim constituent le conseil des anciens, dont la composition est notée dans l'Apocalypse, chapitre 4 et 5. Christ est l'un de ces êtres, voir Apocalypse 5, verset 6. Ils sont mentionnés à plusieurs reprises dans les psaumes, psaume 82, verset 1, 82, verset 6, 86, verset 8, 95, verset 3, 96, verset 4, 97, verset 7, 97, verset 9, 135, verset 5, 136, verset 2, 138, verset 1. Ils sont les moyens des activités de la volonté de Dieu. Christ a été oint au-dessus de ses partenaires par son Elohim ou Dieu. Voir psaume 45, verset 6 à 7, Hébreux 1, verset 8 à 9. Mais c'était un événement postérieur, comme nous le verrons. Dieu existait seul en tant qu'Eloah, avant qu'il se soit étendu en une pluralité, en créant ou en générant les Elohim en tant que fils de Dieu. La création spirituelle est logiquement antérieure à la création physique. Nous lisons dans Hébreux 11, verset 3, « Par la foi, nous comprenons que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit a été fait de choses qui n'apparaissent pas. » Version RSV. Le texte dit que les âges ont été ajustés par une parole, en grec, « rhématie de Dieu ». Les âges ont été ajustés de telle sorte que la chose qui est devenue ou qui a été créée a émergé de ce qui n'était pas vu ou pas physique. Si la création physique a émergé du spirituel, cela signifie-t-il que Dieu en tant qu'esprit est dans toute matière? Non, ça ne veut pas dire cela. Une telle affirmation relève de l'animisme. Le spirituel créé est la base du physique créé. L'esprit n'est pas nécessairement une extension de Dieu, sauf s'il est conféré par l'Esprit Saint en tant que la puissance de Dieu. Le commencement dont il est question dans la Bible est donc une activité de la création de Dieu, qui est ajustée à partir de son activité spirituelle et de sa création spirituelle antérieure. Cette activité impliquait la création des Elohim, qui était son premier acte ou reproduction. La création spirituelle a ainsi commencé, et à partir de cette activité de Dieu en tant qu'Eloah, les Elohim, entre parenthèses un mot pluriel dérivé d'Eloah, ont ensuite commencé à prendre en charge la création physique. Nous comprenons que Christ était l'un de ces Elohim et qu'il a joué un rôle dans cette activité de création. Jean 1, verset 1 est souvent cité par les trinitaires et les binitaires pour défendre l'éternité de Christ, parce qu'ils n'ont pas de réponse à la multiplicité des textes qui montrent qu'il n'y a qu'un unique véritable Dieu. Voir Jean 17, verset 3, 1 Jean 5, verset 20, qui seul est immortel, voir 1 Timothée 6, verset 16, et qui a donné à Christ d'avoir la vie en lui-même, voir Jean 5, verset 26. Nous lisons dans Jean 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu », version RSV. Le simple problème de ce texte est qu'il est mal traduit par les trinitaires, comme les témoins de Jéhovah l'ont constamment souligné. Cependant, l'ordre de la traduction des témoins de Jéhovah est une tentative de suivre la King James plutôt que le texte littéral. Le texte est le suivant. « En arche en ho logos » au commencement était la parole. « Kai ho logos en proston theon » et la parole était avec le Dieu. « Kai theos en ho logos » et un Dieu était la parole. « En proston theon » doit se lire « était orienté vers le Dieu » signifiant par là dans le sens de servir. Il convient de bien remarquer que le terme « ton theon » ou l'identification de Dieu à l'accusatif n'est utilisé que pour le Père, comme dans Jean 1, verset 18. Le Père est donc le Dieu. Christ, en tant que Logos, est ici désigné au nominatif. Il n'y a pas d'article indéfini dans le grec. Il doit être déduit à partir du sens du passage. Entre parenthèses, voir Marshall Interlinear, introduction, page 9. Il y a ici une distinction claire entre le Dieu et ce Dieu petit d, qui était le Logos. C'était un reflet du psaume 45, verset 6 à 7 et de Hébreux 1, verset 8 à 9. Ainsi, le texte des témoins de Jéhovah devrait peut-être se lire « et un Dieu était la parole » et pas « et la parole était un Dieu ». Mais cela est à peine un grave problème. Le sens est que seul le Dieu a existé avant le commencement du temps, dans une perpétuité constante. Lui seul est immortel, voir 1 Timothée 6, 16, Il est dit ici que Christ était au commencement avec Dieu. Par conséquent, Christ était le commencement de la création de Dieu, voir Apocalypse 3, verset 14. Jean explique le sens de Jean 1, verset 1, dans Jean 1, verset 14 à 18. 1 Jean 5, en particulier le verset 20, et Apocalypse 3, verset 14. Le commencement est divisé en phases dont nous comprenons qu'elle concerne la création du ciel et de la terre. Elohim, entre parenthèses hébreu, accent Atnak, mettant l'emphase sur Dieu, voire The Companion Bible, la note de bas de page au verset 1, crée ici conformément à la volonté d'Eloah, en tant qu'Alpha, la singularité. C'est le Elohim, ou Dieu en tant que créateur agissant à l'unisson, en tant que chef d'un ordre d'être. Voir Genèse 1, verset 1 jusqu'à chapitre 2, verset 3. C'est le commencement de la création matérielle. Nous ne pouvons que déduire les attributs de la sous-structure de la matière, car elle ne peut pas être mesurée à l'heure actuelle. Nous connaissons bien la théorie de la causalité ainsi que la directionnalité du temps. Il s'agit de questions philosophiques et scientifiques complexes. Elles font l'objet d'un ouvrage distinct. Il suffit simplement de dire ici que la causalité est singulariste et que la singularité est Eloah et que le temps est directionnel comme cela a été démontré dans le document La Création, de la théologie anthropomorphique à l'anthropologie théomorphique, numéro B5. Dans cet ouvrage-là, il a été démontré qu'il est impossible qu'il y ait une création absolue. En effet, si Dieu ne possédait pas ses attributs à l'origine, il lui serait impossible de les avoir créés. Il doit donc fournir ses attributs à ses êtres qui apparaissent dans l'ordre de sa création. Ainsi, Dieu doit conférer à Christ et aux autres fils ou héritiers des attributs tels que l'immortalité, l'omniscience, l'omnipotence, la bonté parfaite et l'amour parfait. Cela doit être fait par un mécanisme qui confère sa nature et sa puissance. Cela ne peut être que l'Esprit Saint. Cela semble être le cas d'après Romains 1, verset 4, mais nous examinerons cette question plus tard. La création de la structure physique se fait en deux parties. Pierre l'explique par sa référence au monde qui était alors, voire 2 Pierre 3, versets 5 à 6, et aux cieux et à la terre qui sont maintenant, voire 2 Pierre 3, verset 7. On pourrait soutenir que Pierre ne se référait qu'aux périodes pré- et post-déluge, mais il s'agit là d'une hypothèse. Une telle hypothèse n'implique pas non plus que les cieux qui étaient alors n'ont pas été davantage divisés par une catastrophe. En fait, on pourrait supposer qu'une telle notion était implicite dans l'argument de la division des âges. Il est certain que le monde est ancien et contenait une grande diversité d'êtres à des stades qui ont été anéantis par la catastrophe. Le monde, qui était alors, avait un but et une intention, mais il a été détruit. Le but de la création ne peut être déduit qu'à partir des passages de la Bible et de ce que nous savons de la science. L'archéologie nous apprend qu'il y a eu une création étendue, qui était essentiellement non mammalienne, et ne contenait aucun humain ou humanoïde. Cette création a été brusquement discontinue. La structure humanoïde est apparue récemment dans l'histoire de la Terre. Il y a environ 100 000 ans, une forme humanoïde est apparue sur la planète et a cédé la place à une autre espèce non apparentée, apparue il y a environ 40 000 ans. La science moderne soutient aujourd'hui que l'homme avait un ancêtre ADN commun, provenant d'une source située quelque part dans le système Afrique-Moyen-Orient, et qu'elle s'est trompée sur l'âge et la diversité des humanoïdes dans les théories précédentes. Ils reconnaissent l'existence d'un stock ancestral commun et attribuent ce caractère commun aux humanoïdes au cours de cette période de 100 000 ans. Cela sera considéré plus tard comme une erreur. On verra que les humanoïdes qui ont précédé la structure adamique n'étaient pas apparentés et avaient un autre but. Ce but peut être reconstitué à partir de la Bible. Cependant, la création de ces humanoïdes devait avoir un but tel que l'interaction de l'ADN de ces espèces était rendue possible. Ce sujet est traité dans le document Les Néphilim, numéro 154, et aussi dans le document Création. Voyons maintenant la fin des cieux qui étaient alors. La première création semble avoir été ruinée par des causes que nous ne pouvons qu'essayer de reconstituer. La deuxième destruction lors du déluge est le seul témoignage que nous possédions. La première doit être déduite. Nous lisons dans Genèse 1, verset 2, « La terre était dévastée et chaotique, et il y avait des ténèbres à la surface de la profondeur. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Un concept ici est que la création est devenue dévastée et chaotique, ou à tohu et bohu. Les termes tohu et bohu n'exigent pas qu'il n'y ait pas de vie, puisque ces termes sont à nouveau utilisés dans Jérémie 4, verset 23. Mais le Seigneur déclare clairement qu'il ne fera pas une destruction complète au verset 27. C'est la théorie de la recréation qui suppose une recréation récente. On pourrait également faire valoir que les eaux étaient les eaux primordiales des mythes du Proche-Orient, ou encore que les eaux étaient l'équivalent du Big Bang, c'est-à-dire de la création de la matière et de l'expansion de l'univers à partir d'un point spécifique, et d'aucun autre, à partir d'une sélection du volume espace-temps de 10 à la puissance 10 à la puissance 123. Voir l'ouvrage de R. Penrose, The Emperor's New Mind. Ce point spécifique peut être considéré comme le point de création partant du non-physique au physique. La théorie de la relativité nous permet de déduire que l'énergie, la masse, etc. sont des expressions équivalentes d'une seule essence fondamentale. Cette substance, nous l'appelons dans notre jargon « esprit ». L'esprit est invisible. C'est ainsi que la Bible est comprise lorsqu'elle dit que les choses que l'on voit sont faites à partir des choses que l'on ne voit pas. La distinction dans la matière provient probablement de l'arrangement de l'énergie spirituelle en groupement et rotation à des vitesses variables qui déterminent la combinaison et la structure des particules subatomiques et atomiques. La division de la structure atomique libère de l'énergie qui est une expression de l'esprit. L'esprit peut également pénétrer dans la matière en interagissant avec ses particules. D'après les textes dans le cadre de cette théorie, nous pouvons voir que la destruction devait survenir dans l'ordre de l'explication de l'activité postérieure de Genèse. Il semble qu'une discontinuité ou une rupture dans l'activité de la création puisse être déduite ici, dans le texte, plus facilement qu'ailleurs. Il ne fait cependant aucun doute que la discontinuité ou la ruine dans la création physique est une position biblique et ne peut être niée du point de vue de la foi. Le récit de la création semble ici s'intéresser au système terrestre plutôt qu'à l'univers en général, mais il peut aller du général au particulier, en d'autres termes, de l'univers au système planétaire. Voyons maintenant les cieux et la terre qui sont maintenant, la création en six jours. Genèse 1, versets 3 à 5. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit, et le soir et le matin furent le premier jour. Le terme utilisé au verset 3 n'est pas le verbe être, et c'est donc que cela devienne lumière. Entre parenthèses, voir la note de bas de page au verset 3 dans The Companion Bible. Nous posons ainsi la condition préalable à la création des systèmes du quatrième jour. Nous lisons dans Genèse 1, verset 6 à 31. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de lumière dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et toute arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Nous lisons Genèse 2, versets 1 à 7. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Version 8 secondes. Il n'est pas essentiel de savoir s'il s'agit d'une histoire de recréation ou d'un événement généralisé. Ce processus est une bonne explication d'après ce que nous savons de la science moderne, du processus de création à partir de la distribution générale de l'univers et de la formulation de la matière. L'homme a donc été créé à la fin de la séquence et semble être l'objet de la création physique. En effet, la science moderne semble tendre vers la conclusion que l'homme intelligent n'est possible que dans un laps de temps de quelques millions d'années de la vie des principaux systèmes stellaires. La planète a donc un but limité, et la création physique n'est pas en soi l'objet même de la création. La création spirituelle a été mise en ordre par les Elohim, et Christ était l'entité spirituelle centrale dans ce processus. Colossiens 1, versets 15 à 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dominations, principautés et autorités. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Version RSV. Christ est ainsi devenu une image du Dieu invisible. Il était le prototokos, ou le premier engendré de toute créature. Version King James. Nous lisons dans la version King James de Colossiens 1, versets 15 à 16, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature. Car c'est par lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, qu'il s'agisse des trônes, de domination, de principauté ou de pouvoir, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Version Louis II. Notez ici que Christ, en tant que premier engendré de toute créature, en grec, ktiseos, de ktisma, était l'ektiste, ou le fabricant, ou le créateur de la structure organisationnelle. Il a créé les trônes et les seigneuries, les dominations, les principautés et les autorités. Ce ne sont pas des êtres spirituels. Ce sont des administrations. Christ n'a pas créé les Elohim. Il a structuré leur domination et leur ordre. Il a lui-même été fidèle à celui qui l'a fait. Voir le dictionnaire grec de Strong numéro 4160, Poieo, Hébreu 3, verset 2. Christ a été nommé, voir le dictionnaire grec de Strong, Ektheken, de Théo, pour être placé en position d'héritier légitime de toute chose, voir Hébreu 1, verset 2. Le mot dans Hébreu 3, verset 2 est fait, et ce mot est uniquement traduit par établi dans la version du second, dans le présent cas, dans le but d'éviter les implications évidentes qu'il comporte pour les trinitaires. Le mot correct signifiant établi n'est pas utilisé ici. La question est alors posée par les trinitaires ou binitaires, pourquoi Dieu aurait-il fait Christ, ainsi que les autres entités appelées Elohim, ou l'armée angélique, les fils de Dieu, Daniel 3, 25, Chaldéens et Lahin, dont la demeure n'est pas avec les hommes, voir Daniel 2, verset 11, Daniel 4, verset 8, et ensuite se donner la peine de faire une espèce humaine. Quel est le but poursuivi par ces deux aspects de la création? On peut observer que cette forme de raisonnement soulève les mêmes questions en ce qui concerne le concept de l'armée angélique, puis de Christ, comme autre deuxième divinité coéternelle pour les binitaires. Binitaire est un terme courtois pour décrire un dithéiste sous une apparence chrétienne. Cependant, ils ne sont pas monothéistes et ne diffèrent pas philosophiquement des autres dithéistes, sauf pour l'activité des déités, comme dans le zoroastrisme. Dans le cas des trinitaires, nous sommes confrontés à un problème encore plus mystérieux, qui est contraire à la raison, et qui est défendu par un appel au mystère. Les trinitaires ont également adopté la position des cultes à mystère, quant à l'ascension au ciel, ou à la descente en enfer, à la mort, plutôt que la résurrection physique de la Bible. Cet aspect du gnosticisme et des mystères a été spécifiquement condamné par Justin Martyr et l'Église primitive. C'était la façon dont on discernait et distinguait les chrétiens des imposteurs non chrétiens. Les binitaires, entre parenthèses en particulier ceux qui adoptent les vues exprimées par Herbert Armstrong au cours de ces dernières années, telles qu'elles sont exprimées dans l'ouvrage Mystery of the Ages, sont d'avis que les anges ne sont que des gardiens du système. Peut-être est-il plus approprié de l'appeler la théorie du grand jardin de l'univers, où il a été gâché par la rébellion, et Dieu a alors créé ces humains pour remplacer ces anges rebelles. Christ était un second Dieu, coéternel avec le Père, mais en quelque sorte volontairement inférieur. Les élus humains vont devenir supérieurs et d'un ordre et d'un type différent de l'armée angélique. Les anges ne pourront jamais devenir des Elohim, qui est un mot pluriel, qui s'applique à Dieu en tant que famille, mais seulement à deux entités pour le moment. Ce point de vue ne tient tout simplement pas compte de la structure entière des psaumes et des divers textes qui traitent des Elohim. Ce point de vue est gravement incohérent sur le plan biblique et porte en lui des imputations contre l'omniscience et l'omnipotence de Dieu. Christ était le deuxième Dieu d'Israël, mais il n'était pas coéternel. Ce point a été examiné par Alan F. Segal dans son ouvrage « Two Powers in Heaven Early Rabbinic Reports » About Christianity and Gnosticism, E. Gibril Lednen, 1977, et aussi par M. Barker, The Great Angel, A Study of Israel's Second God, SPCK, Londres, 1992. Larry Hurtado, dans son ouvrage One God, One Lord, Early Christian Devotion and Ancient Jewish Monotheism, SCM Press, 1988, tente de défendre la nature binitaire de l'Église primitive. Il dit, citation, « Je soutiens que les innovations dévotionnelles qui précèdent étayent mes affirmations. A. Que la dévotion chrétienne primitive peut être décrite avec précision comme étant de forme binitaire, avec une place prépondérante accordée au Christ ressuscité aux côtés de Dieu. Et B. Que cette forme binitaire est distinctive de la vaste et diverse tradition monothéiste juive qui constituait le contexte immédiat des premiers chrétiens, parmi lesquels ces pratiques dévotionnelles ont vu le jour. » Fin de citation à la page 114. Hurtado développe la nature non trinitaire de l'Église primitive, mais ne parvient pas à traiter correctement la question du grand ange en tant que Christ.
que Barker tente d'expliquer dans un cadre orthodoxe et échoue. Cependant, tous montrent plus ou moins le point que le grand ange était un Elohim. Mais aucun d'eux n'a l'audace d'assimiler cet Elohim à le Dieu. Hurtado montre que le binitarisme est développé à l'égard du Christ ressuscité et distinct et non concerné par sa préexistence dans le judaïsme en tant que le grand ange. La structure de l'Église primitive ne peut, dans le meilleur des cas, que se réclamer de la délégation qui a suivi la résurrection, Romains 1, verset 4, et non de l'existence éternelle de Christ. Christ et l'armée ont tous été le produit de l'activité et de la volonté de Dieu. Dieu est omniscient, il connaissait donc le résultat des activités de l'armée rebelle lorsqu'elle a été créée. Dieu a ordonné Christ en tant que l'agneau tué dès la fondation du monde et a écrit le nom des élus dans le livre de vie avant la fondation du monde. Nous lisons dans Apocalypse 13, verset 8, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été écrit avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Version RSV. Ainsi, non seulement on savait que Christ devait être tué avant que le monde ne soit posé, mais aussi les noms des élus étaient tous connus et inscrits dans le livre de Dieu avant que le monde ne soit formé. Telle est l'étendue de l'omniscience de Dieu. Il est clair que Christ n'est pas omniscient, car il y a des choses qu'il ne connaissait pas, comme l'heure de son retour, voir Marc 13, verset 32, et aussi la révélation de l'Apocalypse, qui lui a été donnée par Dieu. Ainsi, Dieu savait que l'armée céleste se rebellerait, et Dieu savait aussi que Christ devait non seulement être sacrifié, mais aussi qu'il obéirait jusqu'à la mort, et introduirait ainsi un nouveau groupe dans la catégorie des Elohim. Voir Zacharie 12, verset 8, car il était lui-même un Elohim à leur tête. Nous lisons dans Philippiens 2, versets 5 à 11. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Version du Gégon. Christ était donc dans la forme, ou le morphé de Dieu. Il était une image de Dieu, comme nous sommes conformés à l'image de Dieu à travers l'image de Christ, voir Romains 8, verset 29. Nous faisons cela comme Christ l'a fait, en participant à la nature divine, voir 2 Pierre 1, verset 3 à 4. Nous sommes donc cohéritiers avec Christ, voir Romains 8, verset 17, Galates 3, verset 29, Tite 3, verset 7, Hébreux 1, verset 14, chapitre 6, verset 17, chapitre 11, verset 9, Jacques 2, verset 5, 1 Pierre 3, verset 7. Ce dessein de Dieu était immuable, voir Hébreux 6, verset 17. Christ n'a pas essayé comme Satan, voir Ésaïe 14, verset 12 à 14, Ézéchiel 28, verset 14 à 18, de saisir l'égalité avec Dieu. Christ est devenu un humain et a été obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur le poteau. Christ n'est donc pas coégal avec Dieu et n'a pas cherché à être égal avec lui. Nous voyons donc que Christ a obéi à Dieu en devenant un humain. Son sacrifice était un ordre du Père, pour accomplir le dessein du Père, qui était connu dès le commencement, avant la fondation du monde. Il est clairement établi que l'armée humaine sont les frères des anges, voir Apocalypse 12, verset 10, chapitre 22, verset 9, et que les élus deviendront égaux aux anges, en tant qu'ordre d'anges, lors de la résurrection, voir Luc 20, verset 36, où le terme grec est utilisé, « isangelos ». Ainsi, la création doit produire un tout cohérent, et Apocalypse chapitre 5 montre que les élus doivent devenir rois et prêtres sacrificateurs sur cette structure. Alors pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas simplement créés tous en même temps avec les mêmes attributs? Pourquoi y avait-il deux structures et à quoi servaient-elles? La réponse est simple. Dans une structure de création unique, il y aurait quand même eu une rébellion. Satan se serait quand même rebellé, même s'il était parfait lors de sa création. Les fils de Dieu, tant dans l'armée angélique qu'humaine, devaient exercer le libre arbitre, avoir le libre choix, sans quoi ils ne seraient que des robots. Christ a dû être capable de pécher, autrement il ne serait qu'un robot, et il n'y a pas de jugement de Satan. En tout point, Christ a été tenté comme nous le sommes, voir Hébreux 4, verset 15. L'armée angélique a dû se voir confier des responsabilités familiales. Cela s'est fait par le biais de la gestion des humains ainsi que de la création physique. Un être spirituel n'a pas besoin d'exercer sa foi en l'existence de Dieu, mais une armée physique doit le faire. Par des tests interactifs, chaque élément a été enseigné et testé dans ses fonctions respectives. Christ a exercé sa foi en renonçant à une existence spirituelle et en devenant un humain totalement dépendant de la volonté et de la puissance de son Dieu pour la vie et la résurrection à la vie éternelle. Christ a fait cela pour deux raisons. La première raison est qu'il était obéissant à son Dieu. La seconde raison est qu'en tant qu'ange de Yahovah, voir le document d'étude l'ange de YHVH numéro 024, Christ était le chef, le leader spirituel d'Israël, et que ce peuple, ainsi que le monde, était totalement dépendant du dévouement désintéressé d'un autre être pour les racheter à Dieu. Christ était l'Élohim et l'ange qui a racheté Israël. Voir Genèse 48, versets 15 à 16. Nous lisons Genèse 48, versets 15 à 16. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Version Louis II. Cet Elohim était un ange. Il a racheté Israël en tant qu'homme et nation. Dieu l'a choisi pour faire ce travail parce qu'il devait être le grand prêtre, le souverain sacrificateur. Pour diriger, nous devons être prêts à donner notre vie les uns pour les autres. Christ était prêt à le faire, et il s'est donc qualifié pour devenir un fils de Dieu en puissance à partir de sa résurrection d'entre les morts par l'opération de l'Esprit Saint. Romains 1, verset 4. Fin de la lecture du document d'étude numéro F000, commentaire sur la Bible, introduction.